Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette émission, j'espère que, si possible pour la dernière fois ou pour une des dernières fois en tout cas, nous allons parler de ce conflit en Ukraine. Et
Oh, ça
j'espère,
m'étonnerait que ce soit la dernière fois.
j'espère quand même, c'est ce qu'on appelle du wishful thinking. Voilà, j'espère qu'on arrive à l'heure du dénouement, que Trump est en train de nous concocter un petit accord de paix tranquillou avec Poutine et que Zelensky va peut-être l'accepter. Malgré ce qui s'est passé l'autre jour, parce qu'il y a eu une sorte d'altercation dans une visite qui devait à l'origine être purement protocolaire à Washington,
Qu'il avait demandé.
qu'il avait demandé absolument, c'est-à-dire que Donald Trump avait envoyé Scott Bessent et Marco Rubio à Kiev pour négocier un accord qui est un accord en fait minier d'exploitation de terres rares en Ukraine. L'idée, elle est double dans cet accord. C'est d'une part essayer de récupérer un maximum des fonds qui ont été envoyés par les États-Unis en Ukraine par le fait justement de récupérer derrière tout un tas de terres rares. Donc un accord qui a été chiffré, je crois, à peu près 90 milliards de dollars. Et l'autre idée, selon Trump, c'est la manière dont il l'a exprimé, c'est que en gros, pour l'avenir, il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. En revanche, peut-être que le fait qu'il y ait des entreprises américaines et des citoyens américains sur le territoire ukrainien va permettre peut-être de le sanctuariser vis-à-vis de la Russie après définition de ces nouvelles frontières, parce que évidemment, s'il y a un accord de paix, il y aura aussi des nouvelles frontières. La question est de savoir quelles seront ces frontières. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien, ni Poutine ni Trump n'ont révélé leur demande exacte.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne retournera pas aux frontières intérieures.
Non, ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas aux frontières intérieures. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera une sorte de statu quo des zones qui sont actuellement occupées par les forces russes? Est-ce que ce sera plutôt un accord un petit peu plus tendre envers les Russes, c'est-à-dire accepter que toutes les zones qui ont été annexées, c'est-à-dire tous les oblasts, voilà, de Kherson, Zaporijjia, Donetsk, Lugansk, qui sont pas forcément occupés à 100%, notamment pour ceux de Zaporijjia et Donetsk. Est-ce que ces oblasts seront donnés à la Russie dans leur intégralité? Est-ce que ça ira encore plus loin? Quel sera le statut du reste de l'Ukraine? Ça, j'en sais absolument rien. Je pense que personne ne le sait actuellement. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ça fait donc le conflit a commencé en 2022, donc ça fait 3 ans.
Avant, hein.
On entame donc la quatrième année de ce conflit. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts. Voilà, c'est très difficile de connaître les chiffres d'un côté ou de l'autre, puisque évidemment, on va pas faire confiance à Zelensky pour donner les chiffres des morts côté ukrainien, et on va pas non plus faire confiance aux Russes pour donner le nombre de morts côté ukrainien et inversement. Ce qui est sûr, c'est que il y a plus d'1 million de blessés et de morts des deux côtés cumulés. Que c'est un drame humain, que aujourd'hui il n'y a pas vraiment de raison d'espérer un retournement du conflit, bien que voilà il est enlisé depuis pas mal de temps, la ligne de front est vraiment très stagnante. Mais la question c'est est-ce qu'on arrive à la fin de ce conflit? D'un côté on a l'impression que oui, l'administration Trump a l'air assez enthousiaste là-dessus, mais Zelensky, on ne sait pas exactement ce qu'il essaye d'avoir. Et l'autre jour il a commis une sorte d'incident diplomatique en demandant des garanties que Trump n'a pas du tout envie de donner, ou en tout cas il n'avait pas du tout envie d'en discuter devant tout le monde, devant tous les journalistes. Voilà, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé l'autre jour à Washington?
Ben écoutez, c'est une vieille histoire. Hein. Ça remonte tout ça à bien longtemps, mais ça remonte même. Il y avait eu une famine ukrainienne organisée par les communistes dans les années 20, qui a fait, je crois, 1 million de morts, j'en sais rien. Donc il y a une partie importante de l'Ukraine, la partie ukrainienne, mettons, qui est tout à fait anti-russe, il n'y a pas le moindre doute. Alors, si vous regardez la carte que vous avez, que vous montrerez en page 2, là,
ouais.
Vous voyez quelque chose d'intéressant en Ukraine, c'est que les troupes russes ont avancé, dans le fond, les parties roses,
ouais.
Pour prendre les parties russes. Alors, russophones. Alors, il faut savoir que l'Ukraine avait élu un gouvernement plutôt pro-russe et qu'il y a eu un coup d'État qui a été fait en 2014 sous la direction de Mme Valérie Newman, je crois, qui avait lancé les opérations, on appelait ça le
Maïdan.
Le Biden, c'était la ville où ça s'est passé, enfin le marché où ça s'est passé. Et ensuite, ce gouvernement, on a remplacé le pro-russe qui est en train de signer des accords de collaboration entre la Russie et l'Ukraine par le suivant qui voulait signer des accords avec l'Europe. Et ça a amené, il y a des mesures qui ont été prises pour empêcher les gens de parler le russe dans toutes les zones roses là, d'empêcher les écoles, etc. Et les écoles russes ont été fermées, enfin bref, les télévisions russes, les partis russes, tout ça, ça a été fermé. Et il y a eu une révolte de cette région, donc ce conflit a commencé par une espèce de guerre civile entre les partis roses et le reste de l'Ukraine, là, vous voyez. Et il y avait eu à peu près, je crois, 13 000 morts dans cette guerre civile qui était des gains parce que l'Ukraine bombardait de l'autre côté des frontières la partie rose. La partie rose tout en bas, c'est bien entendu
la Crimée.
La Crimée, et ça, et c'est là où la flotte russe est ancrée. Donc, il était hors de question que ça puisse retourner une puissance hostile, puisque c'est à partir de Sébastopol qu'on contrôle un petit peu la mer Noire. Et le contrôle avec la. Donc, quand j'entends les gens à qui on donne des ordres à la télévision française, il n'y en a pas, mais il y en a quand même quelques-uns. Me dire, dans l'histoire de l'Ukraine, il y a eu un agresseur et un agressé,
ouais.
C'est une grosse connerie. Parce que l'agresseur et l'agressé, ça fait un siècle qu'ils se mettent sur la gueule et qu'on ne peut pas savoir qui est l'agresseur et l'agressé. Les premiers qui ont fait une attaque en règle contre une partie de la population, ça a été quand même à partir de 2014, sur toutes les zones russophones. Et ils avaient demandé leur indépendance. Enfin, pas leur indépendance, ils avaient demandé à avoir un statut spécial. Donc, il y avait eu les accords de Minsk, garantis par la France et l'Allemagne, qui précisaient que l'Ukraine deviendrait une espèce de confédération où chacune des parties, parce que l'Ukraine, c'est un peu beaucoup en bas, au sud des Hongrois, à l'ouest des Polonais, à droite, à l'est des Russes et au milieu des Ukrainiens. Donc, un des principes essentiels de la diplomatie française, ça a toujours été le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, la question essentielle qu'on aurait pu régler par un référendum, d'ailleurs, contrôlé par l'ONU, c'était, est-ce qu'une partie de la Russie s'était trouvée embrigadée dans l'Ukraine contre sa volonté? Est-ce qu'on lui demandait, est-ce que vous voulez aller dans la Russie ou dans l'Ukraine? Et il serait évité 1 million de morts, hein, ça aurait été... Mais ça, on l'a jamais fait, puisque les autres ont toujours essayé de maintenir les Russes sous le contrôle. Parce que la partie rose, c'est là où il y a toutes les industries. C'est là où il y a toutes les industries, c'est là où il y a toutes les matières premières, c'est là où il y a le charbon, c'est là où il y a tout, quoi. Donc, ça aurait été transformer l'Ukraine en une zone purement agricole, quoi, ce qu'ils voulaient pas avoir. Alors, quand vous dites qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, il s'est passé un phénomène un peu curieux, c'est que Trump a toujours dit qu'il voulait d'abord, quand on lui posait des questions, est-ce que vous êtes favorable à l'Ukraine ou à la Russie, il disait, je suis favorable à rien du tout, je suis favorable à ce qu'on arrête de tuer des gamins.
Oui.
C'était sa thèse depuis toujours. Donc, son but, c'était d'arrêter le conflit, de faire un cessez-le-feu, puis ensuite qu'on essaye de se démerder pour que les gens cessent de se tuer. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que Zelensky a refusé ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est lui qui a demandé d'être reçu par Trump.
Oui.
Et que quelque part, quelques jours avant, c'était Macron qui était précipité à Washington pour demander à ce qu'il reçoive l'Ukraine. Donc il avait quasiment garanti que...
Oui.
Et quand il est arrivé, il a fait comprendre que tous les trucs de Trump, ça ne l'intéressait pas du tout.
Oui.
Et il l'a fait comprendre en public alors qu'il venait de discuter pendant une heure avant. Donc ouais, c'était ouais, une volonté de faire un clash.
En 1970, il y avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,7 actif. Et en 2060, c'est-à-dire quand ma génération commencera à arriver à la retraite, ce sera plutôt proche de 1 actif pour un retraité. L'État sera selon moi incapable de délivrer sa promesse d'une retraite digne. Et donc pour apprendre à se constituer sa caisse de retraite, tout seul, de son côté, dans son coin, et de ne pas dépendre de ce qui restera de l'État français alors, dans 40 ans, rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne. Là-dessus, il y a eu une lecture, je pense, par beaucoup de médias, notamment européens, qui, à mon avis, est vraiment pas, qui rend pas justice à la réalité. Beaucoup de gens disent que, en gros, les officiels américains ont organisé un traquenard sur Zelensky. Et alors moi, je me suis tapé l'entièreté de toute la conférence de presse, enfin de tout l'entretien, donc plus de 40 minutes, 46 ou 47 minutes. Et on voit déjà au début, Trump parle. Il est sur un ton extrêmement posé, très très amical, enfin amical, disons cordial avec Zelensky. Et à un moment donné, en plein milieu de l'entretien, on voit qu'il commence à être un petit peu ennuyé parce que Zelensky commence à faire des tunnels de parole, il sort des photos, il les montre à la presse, etc. Il dit « Poutine est un dictateur », machin. Et Trump, ça le met un peu mal à l'aise parce que Trump, il dit « Je comprends votre position, vous détestez Poutine, voilà, je comprends pourquoi vous détestez Poutine, mais moi, je ne peux pas rejoindre votre position parce que sinon, en fait, tout simplement, il ne peut pas y avoir de négociation. Je ne peux pas négocier en étant uniquement de votre côté. Donc il faut que je sois un petit peu parti au milieu pour pouvoir négocier entre les deux acteurs. Et j'ai le pouvoir. De toute façon, vous n'avez pas les cartes. Il lui répète ça beaucoup. You don't have the cards. Vous n'avez pas les cartes pour négocier tout seul, donc laissez-moi faire et arrêtez d'emmerder tout le monde avec vos histoires. Mmh. Oui, je connais vos problèmes, mais c'est pas Vogue ou CNN qui va négocier pour vous. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Et il continue. À un moment donné, Trump laisse la parole à J.D. Vance, oui. Et c'est pour ça qu'il intervient. J.D. Vance s'exprime auprès de la presse et il explique un peu la position de Donald Trump pour grossir un peu le trait et faire comprendre à Zelensky que voilà, c'est pas ici qu'on est en train de négocier devant tout le monde. On négocie en privé et t'inquiète pas, on est en train de te sauver ce qui reste de ton pays. Donc, s'il te plaît, n'en fais pas trop. Et Zelensky en rajoute une couche. Et là, vraiment, ça se voit. Même que ce soit dans la communication verbale ou non verbale, ça se voit que vraiment il dépasse les bornes, il demande des trucs devant tout le monde, et ça plaît pas du tout à J.D. Vance et à Trump, et donc la discussion commence à dégénérer un peu, et il y a une hostilité qui se crée entre les différents acteurs. Mais c'est clairement, je le dis, je le répète, c'est clairement la faute de Zelensky. Il y a pas d'autre.
C'est-à-dire qu'il a voulu. Il a essayé de créer l'irréparable, de forcer Trump à choisir entre l'Ukraine et la Russie, devant le public, en disant...
Oui, et adopter tout le vocabulaire, ce que Biden faisait jusque-là, mais Biden, il négociait rien du tout, il discutait pas avec Poutine, donc Biden, il n'avait rien à foutre
de faire tuer des gens, c'était pas son problème.
Voilà.
Donc là, on se retrouve dans une situation extraordinairement nouvelle, et vous me demandez où la guerre va s'arrêter. La vraie question, si on regarde votre carte en page 2, ouais, c'est de savoir qui va prendre Odessa. D'ailleurs, Odessa, c'est le port qui reste à l'Ukraine. Uh-huh. C'est celui qui est tout un peu au sud, là, vous voyez. Les troupes russes en sont très proches. Parce que Odessa est plutôt une ville russe, plutôt qu'ukrainienne. Et donc, c'est là, s'ils prennent Odessa, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Ukraine devient un pays sans sortie vers la mer.
Oui.
Et qui ne peut sortir que par les pays limitrophes, quoi.
Oui.
Donc, c'est la Pologne, bon, c'est peut-être un peu la Hongrie, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de ports non plus par là-bas. Et donc, la vraie question, c'est, on voit bien que pour l'instant, les formulateurs russes s'est contenté de prendre les régions russes.
Ouais.
Ils n'ont pas essayé d'aller plus loin parce que ça ne les intéressait pas vraiment. Puis ils voyaient pas. Ça veut dire que les Russes n'ont pas grand-chose à demander dans la région de Kiev et autour. Là, ça... Mais la région d'Odessa, si vous êtes, vous intéressez à la stratégie, vous dites, la seule façon que l'Ukraine cesse de m'emmerder, si je suis la Russie, c'est que je prenne Odessa, comme ça, ils ne peuvent pas recevoir d'aide de la mer, de tout ça. Et je confie mon contrôle. À ce moment-là, la mer Noire est contrôlée par la Turquie et par la Russie, et puis on parle d'autre chose, quoi. C'est, d'ailleurs, faut pas oublier que la Crimée avait été piquée aux Turcs par la Grande Catherine, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Grande Catherine, donc. Ça aussi, au départ, c'était une région plutôt musulmane. Là, c'était pas vraiment, mais enfin, c'était une région turque.
Et qui a été contrôlée par les Ottomans. Ouais,
les Ottomans pendant très très longtemps, parce que c'était un des points essentiels pour contrôler la mer Noire. Donc, vous avez plus un niveau de réflexion, là, vous avez le niveau stratégique. Est-ce que la ligne rouge va aller jusqu'à la frontière polonaise, quasiment, là, oui.
Ouais.
Ou est-ce qu'elle va rester ouverte? Est-ce que l'Ukraine va rester un pays ouvert sur le commerce international? Est-ce qu'ils auront besoin? Parce que sinon, ça peut passer que par terre. Donc, il y a comment vous exportez votre blé, comment vous exportez votre tout ça. S'il n'y a pas de port, vous allez avoir du mal. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'ils ferment là, les Russes, l'Ukraine se retrouve un peu dans la situation de la Biélorussie qui est au-dessus.
Oui.
C'est-à-dire, oui, très bien, vous êtes indépendant, mais en fait, pas vraiment. Quoi.
Oui. Oui, vous êtes obligé de passer par moi pour exporter votre truc.
Pour exporter votre truc, donc c'est moi qui, à partir du moment où je contrôle la sortie de vos frontières, je vous contrôle vous, quoi. Donc c'est ça la grande question. Alors, on a bien vu pendant toute cette guerre que, pour ceux qui veulent comprendre un peu ce qui se passe, il y a deux ou trois professeurs américains qui sont tout à fait, qui ont expliqué ça, là. Jeffrey Sachs est un type qui a enseigné l'économie et la finance et tout ça, qui est un très bon, qui connaissait les Kennedy depuis la nuit des temps. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, écoutez les analyses sur l'Ukraine faites par Jeffrey Sachs, c'est bien, parce que...
D'accord.
Il vous explique en fait que ce brave Poutine, si j'ose dire, a tout fait pour empêcher la guerre. Et que les Américains ont tout fait pour essayer de la créer.
Ouais.
Et les gens se demandent toujours pourquoi les Américains voulaient-ils créer une situation de conflit au bord de la Russie. Ils ont essayé quelques temps avant, ils avaient essayé en Géorgie. Hein. Ils avaient créé des tas de troubles en Géorgie. Et du coup, les Russes avaient, là encore sur la mer Noire, parce que les Américains voulaient avoir des bases en Géorgie militaire. Donc, là, il y avait aussi une espèce de guerre éclair que les Russes avaient gagné rapidement contre l'armée géorgienne. J'aime bien les Géorgiens, ils jouent bien au rugby. Et puis j'ai été voir, c'est marrant, parce que c'est dans cette zone là-bas qui est limitrophe à l'Iran, et c'est des Européens. Alors c'est pas long, vous allez vous balader en Géorgie, ce que j'ai fait il y a 2 ans, et vous voyez des Européens, une ville européenne, des voitures européennes.
Oui, c'est un pays très européen, ouais, effectivement.
Mais qu'est-ce qu'il faut là-bas? Il est pas dans le bon coin, quoi.
Ouais, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ouais.
L'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Donc c'est marrant, parce que donc, c'est un peu ça, c'est un... Donc, la vraie question sur l'Ukraine, c'était un conflit qui était complètement inutile. Il aurait suffi simplement, ce qu'il avait demandé à Hollande et à Madame Merkel, en disant si les États-Unis aident militairement l'Ukraine, et encore pire, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, je vous rentre dedans. Il l'avait dit nommément, ça a été codifié, ça a été noté, etc. Donc, j'ai jamais très bien compris pourquoi on n'a pas simplement dit il y a 3 ans, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. J'ai jamais compris, parce que ça aurait suffi pour désarmer le conflit. Ouais. Quoi. Il y aurait 1 million de morts de moins. Quoi.
Mais alors, ce que je comprends pas, malgré tout, c'est pourquoi, juste avant le début du conflit en 2022, pourquoi il y avait énormément d'observateurs qui disaient que jamais la Russie n'attaquerait
toutes les analyses de Brzezinski, qui était le Kissinger démocrate.
Ah.
Il avait écrit un truc qui s'appelait Le Grand Échiquier. Ça devait être dans les années 90. Mmh. Il disait 2 ou 3 choses. Il disait, la première des choses, c'est que jamais la Russie ne rentrera en guerre. Même si on la pousse, parce qu'ils avaient déjà poussé vers la Lettonie, jamais. Parce qu'ils n'avaient pas la force, ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'avaient plus. Parce que lui, il écrivait quand la Russie était en train de s'effondrer, avant Poutine.
Oui.
Donc c'était le premier truc, jamais. Et la deuxième thèse fondamentale de Brzezinski, c'était que jamais la Russie ne s'allierait avec la Chine. Donc c'était les 2 idées de fond de Brzezinski. Et la 3e idée, c'était qu'il fallait que la politique américaine maintiennent toujours l'Allemagne dans une position d'inférieur. Et ils étaient très agacés parce que il y avait toute l'énergie pour l'Allemagne arrivait de Russie. Donc il fallait en quelque sorte, pour empêcher que l'Allemagne ne renaisse comme une, il fallait empêcher la Russie de donner son énergie à l'Allemagne. Il fallait forcer la Russie à l'humiliation en quelque sorte parce qu'elle voulait pas, jamais elle accepterait de faire la guerre. Et puis l'empêcher de s'allier avec la Chine. Or ces trois, ils ont très bien réussi à couper l'énergie à l'Allemagne, ça va. Donc ils ont foutu en l'air un allié. Mais les deux autres, c'était complètement faux. C'est-à-dire que Brzezinski s'est planté de façon intellectuelle complètement depuis 25 ans. Mmh. Et c'est cette espèce de feuille de route que la diplomatie américaine a suivie, en particulier quand il y avait des démocrates.
Ouais.
Donc les types, ils sont partis sur des présupposés. Jamais il y aura d'alliance entre la Chine et la Russie parce qu'ils se détestent trop. Et deuxièmement, jamais la Russie ne se défendra militairement parce qu'elle n'en a pas la capacité. Il disait que la Russie était une station-service avec une cuisine à côté, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas compris que, par exemple, depuis deux ans, dans les deux ans qui précédaient le conflit, pourtant on aurait pu le savoir, j'imagine, les usines d'obus en Russie travaillaient à temps complet, ils avaient bâti à peu près un an de stock d'obus avant de se lancer, quoi. Donc, il me semble que si j'avais été, je n'ai jamais été, mais dans une position de puissance, j'aurais demandé d'abord, est-ce que la Russie est prête à la guerre? Et la réponse est, elle l'était. Et est-ce que nous sommes prêts à la guerre? Et non. La réponse était non. Donc ils ont commencé une guerre sans même savoir ce que l'autre avait préparé.
Ouais.
Donc on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu une série de crétins qui étaient un peu les néocons américains, Madame Victoria Nuland, etc., qui fait partie de la famille Kagan, qui étaient des néocons pas croyables. Néocons, c'est les gars qui voulaient maintenir les États-Unis comme la seule hyperpuissance mondiale.
Hein. Ouais.
Donc, tous ceux qui nous ont foutu des conflits partout. Et donc, quand j'analyse tout ça, je me dis, ce que j'ai dit depuis un certain temps, c'est que les États-Unis étaient tombés sous le contrôle d'une classe criminelle et que l'une des raisons pour lesquelles ils étaient intéressés tellement à l'Ukraine, on l'a très bien vu avec les affaires Clinton et etc., c'est que l'Ukraine servait de lessiveuse à toutes leurs opérations dans lesquelles ils faisaient beaucoup d'argent eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que cette classe criminelle, l'Ukraine l'a rangé parce que c'est là que passait tout le pognon. Quand Zelensky vous dites que j'ai reçu 175 millions de dollars, 75 milliards de dollars, mais j'en ai vu que 75, on peut légitimement se poser la question où sont passés les 100 milliards récents, quoi.
Ouais.
Et donc, je crois qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe si on comprend pas qu'il y a eu, pendant un certain nombre d'années, une classe criminelle au pouvoir aux États-Unis.
Il y a une classe d'intérêt, effectivement, qui a totalement... qui a intérêt
à ce que ça commence à ressortir avec les affaires qui sont sorties par le ministère de la Justice, etc.
Ouais.
Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre dans les 2-3 ans qui viennent? Regardez, il s'est passé un phénomène tout à fait extraordinaire. L'affaire de... Vous savez, du Lolita Express, là, le...
Oui, Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein. Le ministre de la Justice, Madame Bondy, demande le dossier.
Ouais.
On lui fournit que le dossier de l'avion, on lui dit c'est tout ce qu'il y a. Et puis, comme elle a des bons amis quand même ici ou là, qui sont des... on lui apprend que tout le dossier est au FBI à New York.
D'accord.
Et le chef du FBI à New York refuse de lui donner le dossier. Refuse. Elle le vire, et maintenant elle a reçu le dossier. Mais c'est quand même extraordinaire qu'un nouveau ministre de la Justice demande le dossier de l'affaire Epstein,
Et qu'on lui refuse.
Et qu'on lui dise, non, c'est pour vous dire à quel point cette classe se croyait intouchable. Et donc, quand vous voyez qu'il refuse de vous donner le dossier Epstein, je ne sais pas ce qu'il y a exactement sur le fils de Biden et ses rapports avec l'Ukraine, mais il doit y avoir des trucs pas tristes aussi qu'on doit pouvoir trouver. Mais qu'on n'aurait jamais trouvé si les démocrates étaient restés au pouvoir.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, on peut dire que la situation est intéressante parce que ce que dit Trump, c'est qu'il dit, écoutez, on va arrêter le massacre parce que n'y a pas de raison qu'on continue à faire tuer des gens, quoi.
Oui.
Et puis nous, on va essayer de comprendre pourquoi on est là. Et toute la presse, mais ce qui m'étonne le plus, c'est que toute la presse européenne, tous les gouvernements européens, qui font partie de l'État profond eux-mêmes, ouais, sont en train de nous expliquer que c'est ce que fait Trump, c'est abominable. Mais chaque fois que j'entends que quelqu'un me dire que Trump est abominable, qu'il abandonne tous ses... Je me dis, tiens, combien il touche. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je me dis, la partie en face est déshonorable. Vous voyez, pour moi, c'est très surprenant. Parce que dans ma naïveté, pendant longtemps, j'ai cru que les États-Unis étaient une démocratie et que ça se passait à peu près bien. Mais en fait, la marche de l'État profond n'était pas du tout la marche d'une démocratie.
Ouais.
Et elle est en train de redevenir avec Trump. Ça veut dire qu'il doit y avoir... Et pour moi, si vous voulez, l'affaire Epstein, la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé en Libye, l'assassinat de... Tout ça, c'est les mêmes personnes. Je vous donne un autre exemple qui me laisse pantois.
Ouais.
C'est qu'il y a eu un grand désastre en Haïti il y a une dizaine d'années, je ne sais pas
oui,
si vous souvenez.
Oui, c'était en 2009.
2009, vous avez eu 4,5 milliards de dollars qui ont été levés par les citoyens américains pour envoyer à Haïti. Il n'y en a que 4% qui sont arrivés à Haïti. 96% ont été volés. Mais par qui? Il n'y a que 4% qui sont arrivés en Haïti. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous... 4% qui arrivent en Haïti, une guerre en Ukraine, 175 milliards qui partent, 75 milliards qui arrivent, on ne sait pas où sont les 100 milliards. L'affaire Epstein, vous vous dites, mais qui c'est ces gars-là exactement?
Ouais.
Exactement, qui sont-ils? Et pourquoi nos journaux les soutiennent-ils à ce point-là? Ils ont reçu combien? L'une des grandes demandes que je fais, j'espère que j'aurai la réponse, je l'ai déjà demandé, est-ce que je pourrais avoir la liste des journalistes français qui ont reçu de l'argent de USAID, ouais, vous savez?
Oui, bien sûr.
Donc, je me dis, les États-Unis ont été l'objet, c'est pas idiot ce que je dis, hein, d'un coup d'État interne qui avait déposé ses hommes aussi un peu partout en Europe. Madame von der Leyen en fait partie, puisqu'elle était ministre de la Défense aussi en Allemagne. Et qui étaient des brigands.
Ouais.
Ben alors, je sais que ça paraît un peu idiot ce que je dis, mais je dis, dans ce cas-là, si c'est le cas, il faut plaindre beaucoup les Ukrainiens. Mais si j'étais d'un cynisme parfait, ce que je ne suis pas, parce que je continue à être naïf, je penserais que toute la partie ouest de l'Ukraine, qui est en fait une terre polonaise, hein, ça s'appelle la Galicie, devrait retourner à la Pologne.
Mmh.
Ça avait été volé à la Pologne par Staline. Hein.
Faudrait-il faire en fait des référendums locaux, tout simplement?
Des référendums locaux. La partie, le sud, de c'est des Hongrois.
Ouais.
L'est, c'est des Russes. Et l'Ukraine, puisqu'il y a trois populations qui ne peuvent pas se voir, qui ne veulent pas vivre ensemble,
ouais,
ben, qu'on fasse des référendums et qu'on les... Vous savez, c'est quand l'Union soviétique est tombée, on est resté avec des frontières, et soi-disant, ces frontières étaient intouchables.
Ouais.
Et pourquoi? Et pourquoi ces frontières étaient intouchables? On peut regarder par exemple la Tchécoslovaquie, c'est séparé entre Tchéquie et Slovaquie, bien avec sûr, un référendum, il n'y a eu pas de morts, ils sont partis chacun de leur côté, donc on aurait pu que scinder l'Ukraine en 3 ou 4.
Oui, bien sûr.
Et ça aurait été, il n'y aurait jamais de guerre.
Oui.
Donc ce désir des États de rester sur la frontière, en ayant à l'intérieur des populations qui ne veulent pas vivre ensemble, ça peut pas ne pas mal tourner.
Mmh.
C'est pour moi, c'est la base de la diplomatie française depuis au moins la Révolution. Ça a été le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Ouais.
À disposer d'eux-mêmes. Et d'un seul coup, non, plus personne n'en parle, c'est fini.
Ouais.
Mais pourquoi? Pourquoi d'un seul coup, les Russes qui sont la frontière, c'est Khrouchtchev qui avait annexé la Crimée et puis qui avait créé les frontières de l'Ukraine. Alors, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs qu'en 1945, quand l'ONU a été créée, l'Ukraine a une voix indépendante. Donc, les communistes disaient l'Ukraine est un pays indépendant. Pourquoi? Ouais. Parce que comme ça, ils avaient deux voix à l'ONU.
Oui.
C'était plus pratique que dans la
marine. C'était pratique, oui, effectivement.
Donc, tout ça, si vous voulez, c'est un crime historique dont les racines remontent à au moins un siècle et demi, quoi.
Ouais.
Et... toute cette région, si vous voulez, qui est dans la région d'Odessa et tout, C'est très intéressant aussi parce que c'est là où il y avait une population juive extrêmement importante et que la quasi-totalité des dirigeants d'Israël au début venaient de cette région d'Odessa.
Ouais.
Donc, pouf, ils sont tous partis en Israël, là. Et, parce que, et donc, vous avez toute une série de choses qui sont passées là-dedans. Et le truc extraordinaire quand vous regardez tout ça, c'est à quel point les journalistes, etc., ne savent rien sur ce qui s'est passé là-dedans pendant deux siècles, quoi. Ils sont d'une crasse, oui. Une nullité crasse totale.
Et puis, j'ai envie de dire, même en ignorant cela, même en juste prenant la situation telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, les Européens qui proposent, pas d'autre plan que juste continuer à se battre, ne proposent pas, enfin, ils ne proposent rien. C'est-à-dire que il n'y a pas de sortie possible, viable, souhaitable, qui reviendrait à la situation d'avant pour l'Ukraine, en fait. C'est juste pas possible.
Pour l'Ukraine d'autrefois, c'est râpé.
En fait, tout ce que vous pouvez essayer d'avoir, c'est éventuellement, et encore, c'est pas certain...
Un État ukrainien autour de Kiev.
Et, enfin, je veux dire, sur le plan militaire, vous pouvez essayer autant que possible de maintenir la ligne de front telle qu'elle est. Je sais pas combien de temps ça tiendrait.
Mais la réalité, si vous voulez, c'est que cette ligne de front que vous voyez ici...
Oui.
Je suis pas sûr que les Russes veuillent aller au-delà. Maintenant, ils dominent l'artillerie de façon totale. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des canons tout du long comme ça, là. Mm-hmm. C'est grand, hein. Ça doit faire 2000 km, ça, c'est très grand. Et puis, ils bombardent tout ce qui est à 25 km, là. Donc, personne peut vivre ici, quoi.
Ouais,
voilà.
Oui.
Et donc, eux, ils ont, en quelque sorte, garanti les territoires russes. Et maintenant, ils attendent.
Ouais.
Ils attendent une décision politique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Ils ont pas besoin de faire, s'ils ont pas l'intention d'aller jusqu'à la Pologne.
Ouais.
Bah, ils ont qu'un truc à faire, c'est d'attendre tranquillement et de tuer les pauvres Ukrainiens un par un, quoi.
Ouais.
C'est... Vous regardez la carte, vous vous dites, mais on voit bien que les Russes ne veulent pas aller plus loin.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui se passerait, c'est que déjà, le pays se viderait de ses forces vives, ce qui a déjà été le cas.
Hein.
On dépenserait des milliards, on enverrait combien d'armes.
Je crois qu'il y a 4 ou 5 millions d'Ukrainiens qui sont partis en Pologne.
Oui,
ce qui d'ailleurs pose un problème aux Polonais important, parce qu'il faut les accueillir, il faut les loger,
il faut
les nourrir.
Oui, tout à fait. J'étais en République tchèque aussi il y a quelques mois, et on m'a dit effectivement que c'était aussi un peu un problème en République tchèque, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup d'Ukrainiens, et non pas qu'ils se comportaient particulièrement mal, mais disons que c'est compréhensible, quand il commence à y en avoir beaucoup chez vous, vous commencez à être un peu gêné, quoi. Voilà, exactement.
Beaucoup, c'est souvent trop.
Ouais.
C'est alors en plus, si vous voulez, il y a quand même quelque chose de rigolo, c'est qu'ils sont tous absolument. Il faut pas toucher aux frontières, c'est un scandale, ils vont dire et tout. Et donc, il faut protéger les frontières de l'Ukraine à tout prix, de l'Ukraine ancienne. Et personne ne s'intéresse à nos frontières à nous.
Mmh.
Il me semble qu'on est l'objet d'une invasion, sinon.
Oui.
Enfin, sortant.
Oui, d'une certaine manière.
D'une certaine manière, donc. Pourquoi les frontières ukrainiennes sont intangibles et les nôtres sont des passoires?
Oui, si vous arriviez à convaincre l'élite européenne qu'il s'agissait d'un complot russe, je pense que d'un seul coup, il se saisirait de la question.
Mais c'est pas que c'est un complot russe. C'est, encore une fois, la façon dont j'en ai la chose, je veux dire, c'est qu'il y a eu une classe criminelle qui a pris le pouvoir en Washington, et tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, toutes les analyses qu'on peut faire sont fausses.
Alors, j'ai quand même une petite série de questions à vous poser,
Vas-y.
Notamment des thèmes qu'on voit ressurgir de manière récurrente. Ceux qui se rangent du côté plutôt du côté justement où l'Ukraine doit accepter de sacrifier une partie de son territoire au moins pour pouvoir survivre en tant que pays et en tant que population aussi, sont souvent traités par la presse comme des capitulards, et on parle d'esprit munichois, voire même de collaborationnisme.
Je voudrais faire une petite remarque. Je dis, c'est pas difficile. À Munich, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dire, bon, ils peuvent attaquer la Tchécoslovaquie, là. Donc, ils peuvent venir, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands en Tchécoslovaquie, hein. Mais si vous attaquez la Pologne, vous aurez la guerre.
Ouais.
Bon, ça a été le moyennant quoi, il a piqué la Tchécoslovaquie, oui. Hitler. Et puis ensuite, il est rentré en Pologne.
Ouais.
Et celui qui a déclaré la guerre à Hitler, à l'Allemagne, c'est les Français et les Anglais.
Ouais.
C'est nous qui avons déclaré la guerre.
Oui.
Donc, si vous voulez, comme tout le monde me dit, on a été des gros munichois.
Oui.
C'est nous qui avons déclaré la guerre, on a pris une branlée derrière sur tous les Français. Mais il n'empêche qu'on a respecté ce qui avait été dans le traité de Munich.
Effectivement.
C'est-à-dire d'attaquer si on était en Pologne. Donc, si vous dites à la Russie, vous êtes, vous prenez le parti, mais si jamais vous attaquez la Pologne, les Lettonies ou n'importe quoi, vous aurez la guerre avec l'OTAN, ce qui est déjà le cas dans le traité de l'OTAN. Vous aurez la guerre. Bon, on est dans la même situation qu'à Munich, comme.
Très bien.
Ce que je voudrais dire aux gens, c'est que c'était pas en 38 qu'il fallait agir, c'était en 34 quand Hitler a remilitarisé la Ruhr.
Alors, oui,
à ce moment-là, tous les équivalents des étaient là, tous en train de bramer, en disant qu'il fallait pas la guerre, tout sauf la guerre.
Tout à fait. Parce que ça aussi, c'est intéressant. En 1938, en quelque sorte, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que, en fait, ça n'aurait servi à rien. Nous n'étions pas prêts à faire la guerre en 1938. Visiblement, on n'était pas vraiment prêts à la faire non plus en 39-40, mais on n'était pas non plus prêts à la faire en 38.
De 38 à 40, les Anglais en plus armée, faire la RAF et bâtir le Spitfire. Ouais. Et donc, on était beaucoup plus prêts, les Anglais étaient beaucoup plus prêts à faire la guerre en 40
qu'en 38. Tout à fait. Donc
par contre, en 34, on aurait pu leur rentrer dedans et on les ratatinait en 5 minutes.
Oui, c'est clair.
Donc, la grande lâcheté, ça a été 34-35-36, quoi.
Ouais, effectivement. Et aussi, je voudrais m'adresser un peu au libéral conservateur que vous êtes, vous êtes un grand admirateur de personnalités comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et je me pose la question, d'ailleurs j'avais posé la question à Grok, l'intelligence artificielle de Musk, qu'aurait fait, en prenant en considération leur politique diplomatique et militaire, qu'aurait fait Ronald Reagan et Margaret Thatcher si eux avaient été confrontés à la situation actuelle. Et je me dis, Ronald Reagan a jamais été particulièrement tendre avec l'URSS, mais c'était l'URSS, c'était pas tout à fait la Russie de Poutine, il y avait une dimension idéologique qui était très importante. Mais selon vous, comment ils auraient réagi? Est-ce que vous auriez été d'accord avec eux?
La question, c'est pas ce qu'ils auraient réagi, c'est pourquoi a-t-on gardé l'OTAN après 1992? Pourquoi il n'y avait plus aucune raison que l'OTAN existe, puisque la Russie était devenue une démocratie? Enfin, oui, il y avait des élections, ça se passait bien. La Russie avait demandé à rentrer dans l'OTAN, justement, pour faire partie de cette alliance et tout. Ce qui avait été refusé par Clinton, je crois. Donc, la monstruosité, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas fait il y a 30 ans en supprimant l'OTAN, qui n'avait plus de raison d'être, puisqu'il n'y avait plus de danger soviétique, il n'y avait plus de danger de communistes. Pourquoi on a gardé l'OTAN? Et d'ailleurs, ce que j'espère que M. Trump va faire dans les mois qui arrivent, c'est supprimer l'OTAN.
Suppression pure et simple.
À quoi ça sert?
Je sais pas.
À quoi ça sert? Si les Européens ont peur de la Russie, mon Dieu, qu'ils fassent des armées locales et qu'ils s'occupent. Mais là, si la Russie nous rentre dedans, mais enfin, historiquement, si je peux me permettre, c'est plutôt les chevaliers teutoniques qui ont attaqué la Russie, puis l'Allemagne, puis la France, puis l'Allemagne. Les invasions ont rarement été de la Russie vers nous, sauf quand il y avait des Européens qui avaient attaqué la Russie, donc les Russes allaient piquer des territoires en Europe pour se faire un glacis, en quelque sorte, de protection.
Ouais.
Mais la Russie, elle a eu tendance à se développer vers le sud et vers l'est, mais l'ouest, pas fait tellement de guerres que ça. Hein. Les guerres de Napoléon, c'était des guerres pour empêcher une puissance de dominer, quoi. Donc,
ouais.
Cette idée de la Russie en puissance impérialiste, mais regardez une carte, je ne sais pas si vous l'avez là, mais je crois pas, c'est vous mettez simplement, j'ai vu un truc qui m'a fait rigoler. Il y avait un type qui disait, regardez à quel point la Russie est une puissance militariste. Parce que, vous voyez, la Russie, c'est là, et tout autour, il y a toutes nos bases militaires. Vous vous rendez compte? Ils en veulent à nos bases militaires. Toutes les bases militaires sont autour de la Russie, donc vous vous rendez compte à quel point ça veut dire qu'ils sont des militaristes. Mais la question, c'est pourquoi la Russie est entourée 250 ou 200 bases américaines, alors qu'ils avaient... C'est par exemple l'Ouest. Je crois que c'était... Il y a eu d'abord Bush, puis ensuite même Trump. Ils ont supprimé, tout simplement, les traités militaires pour les missiles à courte portée et les missiles à moyenne portée, qui étaient qu'il ne devait pas y avoir de missiles en Pologne, etc. Et on a fait sauter, on a mis les missiles, alors que on a dit les traités, on les renouvelle pas, quoi. Donc ça, on a pris sur nous la possibilité de mettre des missiles à une demi-heure de Moscou.
Ouais.
Donc vous seriez les Russes, vous diriez ça me broute, quoi. Je cherche pas à excuser Poutine, je dis pas que c'est un type bien, mais je veux dire, prétendre que nous n'avons pas eu un rôle éminent dans la militarisation de la Russie, c'est qu'on a tout fait pour les énerver, quoi.
Et est-ce que vous pensez que Trump, il espère, voilà, gérer cette affaire le plus rapidement possible et puis pouvoir passer à autre chose, pour peut-être essayer de ramener un peu plus la Russie vers les États-Unis et séparer un peu cette relation qui s'est faite avec la Chine.
Non, moi, quand je regarde ce que fait Trump, l'impression que j'ai, c'est très net, c'est qu'il est arrivé avec des gens qui prétendaient que les États-Unis devaient être le leader mondial, le puissant, si vous voulez, et qu'il s'est rendu compte que ça amenait des guerres partout et que ça marchait pas du tout. Donc, j'essaie d'analyser le Trump aussi froidement que je le peux. Et je me dis, il se dit, bon, ben maintenant, l'Asie, c'est foutu, mais ça deviendra, mais c'est foutu à terme. L'Europe, c'est foutu, puis en plus, ils sont impossibles, quoi. Ils respectent même plus la liberté de parole. Donc, je vais faire la forteresse américaine, États-Unis, Canada, le Groenland, peut-être Mexique, je vais faire la forteresse américaine, là. Et puis, là, je vais sortir les États-Unis de toutes ces guerres dans lesquelles on n'en a rien à foutre. Donc, il va transformer l'armée américaine qui a quoi, 1000 bases dans le monde, et la CIA est d'en avoir 250, il va fermer tout ça, il va faire plein d'économies, et il va essayer de faire un, si je devais utiliser une comparaison risquée, je dirais un petit Israël dans le monde, ça fait un truc qui est bien protégé de tous les côtés, et que voilà, si les gens l'attaquent, ils en prennent pas la gueule, mais il va plus attaquer les autres, il va attendre que les autres l'attaquent pour le rentrer dedans. Donc je crois que le but de Trump, c'est simplement de, ben, on va rester chez nous et puis on emmerde tout le monde, quoi.
Ouais.
C'est une vieille tentation américaine. Tous les présidents américains étaient comme ça jusqu'à Wilson. Et puis Wilson a commencé à intervenir dans la guerre de 14. Et c'est là où le traité de Paris, ça a été gâché par les Américains. Enfin, bref, ça a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut pas dire que sur le 20e siècle, les interventions américaines à l'étranger étaient un grand succès, quoi.
Ouais. Mais justement, là-dessus aussi, j'avais une question. C'est on voit que vous êtes pas forcément un très grand fan de l'intervention américaine dans le monde.
Je suis assez peu grand fan d'aller intervenir chez les autres.
Ouais. Mais par conséquent, nous, est-ce qu'on n'a pas été contents que les États-Unis interviennent quand nous étions en situation très critique, notamment à la Seconde Guerre mondiale?
À cause de nos conneries, oui, c'est ça. Si vous voulez, si vous regardez la façon dont on a traité l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, les réparations, tout ça, on les a fait contraint à l'hyperinflation, à la faillite, eux-mêmes se sont gérés comme des cochons de... Donc, il y a eu de 1910 à peu près à 1960, ça a été le suicide de l'Europe, quoi. C'est-à-dire les conneries sur conneries sur conneries sur conneries. Et grâce à Dieu, les Américains sont intervenus pour empêcher les nazis de gagner. Mais c'est pas pour ça que... Je veux dire, je suis content qu'ils soient intervenus. Mais j'aurais préféré qu'ils n'aient pas besoin d'intervenir.
Oui. Oui.
Si on avait suivi des politiques à peu près normales, si j'ose dire, ça paraît con ce que je veux dire, mais si vous aviez un roi en France et un roi en, je sais pas où, en Angleterre ou là-bas en Allemagne, on aurait probablement pu arriver à des accords parce que ni l'un ni l'autre ne voulait détruire, ils veulent pas détruire. Les rois avaient quand même une espèce d'attitude patrimoniale vis-à-vis de leur domaine. Ils voulaient pas qu'on foute en l'air leur... Donc, cette espèce de folie qui a pris les nations européennes, le nationalisme à la fin du 19e et début du 20e, ce recours à la guerre comme solution, c'est ça qui nous a tués.
Ouais.
Et aujourd'hui, on continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut continuer la guerre en... Si quelque chose nous a appris, on devrait savoir en Europe, c'est que les guerres, c'est pas une solution, quoi.
Ouais,
on savait rien, on se précipite tous.
Et puis on comprend pas exactement à quelle fin, en plus, hein, parce que...
Ben oui, mais c'est exactement... Ben, c'est... Le pauvre pape, en 1917-1918, il se donnait avec l'empereur François-Joseph en Autriche, il disait, mais pourquoi on se met sur la gueule exactement? Est-ce qu'on pourrait pas discuter, arrêter ces massacres? Non, non, il fallait absolument... L'autre était... À partir du moment où vous considérez que l'autre est un mal absolu, ce ce qui était le cas du nazisme. Mais en 1914-18, l'Autriche-Hongrie, c'était pas le mal absolu, la France, c'était pas le bien absolu. Enfin, je veux dire, on nous a bâti ce mythe de l'ennemi en face, il est pas humain.
Ouais. Mais est-ce qu'il y avait pas un petit peu de ça avec même avec Reagan, par exemple, quand il parle d'empire du mal.
Lui, c'était les idées qu'il combattait.
Ouais.
Le Reagan, il avait fait des trucs à la radio américaine pendant des années, des conférences sur le côté intrinsèquement pervers du communisme. Mais il n'a pas déclenché une guerre pour les liquider. Il les a ruinés en faisant monter les dépenses militaires à un point où ils ne pouvaient plus suivre et paf, ça a fait sauter le truc. Donc, il n'a pas tiré comme conclusion, comme c'était l'empire du mal, qu'il fallait les attaquer.
Ouais.
Il les a juste ruinés. Et la hausse des taux d'intérêt par Volcker, ça a beaucoup aidé parce que ça fait sauter tous les pays qui vivaient pas bien, qui avaient besoin d'emprunter, comme la Russie. À partir du moment où les taux d'intérêt étaient à 10,
ils n'étaient plus capables de rembourser.
Donc, c'est pas la même chose de lutter contre une idéologie dans le domaine des idées.
Ouais.
Et puis de faire passer votre tank à la frontière, quoi.
Ouais, effectivement.
Et si vous remarquerez, aujourd'hui, on nous présente Poutine comme le mal absolu à nouveau. Aujourd'hui, on vous dit partout que Poutine et Hitler, c'est la même chose. Or, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Poutine, c'est le tsar.
Ouais. Et est-ce que, pour reciter un peu un exemple français, alors je sais pas exactement, je suis pas un spécialiste de l'Ukraine, donc je sais pas comment les Ukrainiens eux-mêmes voient justement toutes ces zones du Donbass avec les quatre oblasts dont j'avais parlé, mais je voudrais, pour l'exercice, faire une sorte de parallélisme avec nous lorsque nous avions perdu l'Alsace-Moselle.
L'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine, c'est pour ça que ma famille était venue en France, d'ailleurs, qu'ils avaient quitté l'Alsace à l'époque. Alors la réponse est assez simple, si vous voulez, c'est que l'Alsace-Lorraine avait été perdue dans une guerre qu'on avait fait Napoléon III, qui l'a déclenchée, qui était parce que c'était un très bon empereur, mais il a, à la fin de sa vie, il était fatigué. C'est un peu, paraît-il, l'impératrice Eugénie qui a forcé à cette guerre, et puis pouf. Et donc, là, il s'agissait d'une conquête militaire, tandis que dans le cas de Donbass, etc., c'était des gens qui, jusqu'à la chute de l'Empire de l'URSS, étaient en Russie. Ils n'avaient pas été conquis par qui que ce soit militairement. Mmh. Eux, ils étaient en Russie, ils avaient toujours été en Russie, ils avaient pris le train pour Moscou, ils prenaient l'avion pour Moscou, ils étaient des citoyens comme les autres. Puis d'un seul coup, l'Ukraine arrive, et eux qui étaient russes, ils se retrouvent ukrainiens. On leur a pas demandé. Personne n'aura demandé. Donc, il n'y a pas de rapport en quelque chose qui a été conquis militairement et quelque chose qui se retrouve par hasard de l'histoire dans le pays d'à côté, quoi. Mais il dit, attendez, moi, je ne fais pas partie du pays d'à côté, je suis russe, quoi. Enfin, me semble-t-il, quoi. C'est... je ne vois pas que ce soit une comparaison valable. D'abord, en plus, nous, on a eu, quoi, 2 millions et demi de morts ou 3 millions de morts en 14-18. Je ne sais plus comment on en a eu, 3 millions.
Un sacré paquet, oui.
3 millions, et je crois que c'était à peu près la population qu'on a récupérée en Alsace-Lorraine après. Donc, faut pas faire... C'est comme Munich et tout ça, c'est pas... Le grand mal, le grand drame de l'Europe, c'était Bismarck. Parce que normalement, si l'Allemagne avait suivi une évolution normale, vous auriez dû avoir ce qui correspond à l'Allemagne de l'Est, c'était la Prusse, et puis bon, peut-être jusqu'à là-haut, près de la Russie. Bon, ça aurait été la Prusse. Puis vous deviez avoir l'Allemagne rhénane, qui était sympa, qui était un pays qui aurait été... avec l'Alsace, quoi, on aurait pu faire un truc ensemble. Et puis vous aviez la Bavière, qui était autre chose, qui était branchée sur l'espèce de ligne qui descendait vers l'Italie, la Savoie, Venise, tout ça, c'était... Donc vous avez la possibilité de faire trois Allemagnes qui auraient partagé la même langue, mais qui auraient eu des régimes différents. Parce que les Allemands de l'Est, enfin les anciens Prussiens, ne pensent pas du tout comme les bourgeois de Cologne. Quoi. Pas du tout, c'est pas du tout les mêmes. Et de même, le mec qui est à Munich, il ne pense pas comme les deux autres.
Mmh. Donc, est-ce que ce n'était pas ça finalement qu'il fallait faire après la guerre de 14, diviser l'Allemagne, peut-être pas lui exiger grand-chose.
C'est ce qu'on a fait en 1945 en faisant l'Allemagne de l'Est.
Oui.
Mais en même temps, on en a fait une base militaire très puissante, puisqu'il y a, je sais pas, 200 000 soldats allemands, là, il y a américains.
Ouais.
les bases militaires et tout. Donc on a fait une base militaire pour contrôler la Russie à partir de l'Allemagne. Mais à partir du moment où l'Union soviétique sautait, pourquoi on avait besoin d'une base militaire? Pourquoi les Américains voulaient garder une base militaire pour contrôler l'Allemagne?
Ça,
pour contrôler la Russie. Je sais pas. Donc, il y a eu toute une série. Par exemple, les Français, pendant la guerre de 14-18, vous savez, dans la grande époque de Richelieu, etc., l'ennemi, l'ennemi total de la diplomatie française, c'était l'Autriche-Hongrie.
Ouais.
Donc, pendant deux siècles, l'Autriche-Hongrie, ça a été l'ennemi trois siècles. Et donc, tous les diplomates français en 14-18, ils ont qu'une idée, c'était de détruire l'Autriche-Hongrie.
Oui. Oui.
L'Autriche-Hongrie, c'était le truc qui nous protégeait contre la Russie et contre la Turquie. Donc, ils ont tout fait pour foutre en l'air le bouclier qui nous protégeait contre les deux principales puissances extérieures. On peut pas être aussi con. Parce que l'Autriche-Hongrie était catholique.
Ouais.
Et que la diplomatie française, à l'époque, elle était, mettons, influencée par un certain nombre de groupes de pression qui n'étaient pas catholiques. Et donc... Vous dites, mais l'immense erreur de la fin de guerre de 14, ça a été la disparition de l'Autriche-Hongrie. Et c'était en plus la capitale intellectuelle de l'Europe, c'était à Vienne que tout se passait. Les grands économistes, les grands écrivains, ils venaient tous de là, parce que c'était une espèce de mosaïque de peuples qui était très marrante. Donc, on est allé vers cette espèce de nationalisme étroit. Donc, l'Autriche, la Hongrie a eu Béla Kun, qui était un communiste aussi, ils ont tué tout le monde dans les années 18-19, puis il y a eu le merdier pas possible en Hongrie, puis après ça, il y a eu un tyran d'ailleurs après, un général, genre. Puis après ça, vous avez l'Autriche qui a connu l'hyperinflation et tout, puis qui s'est vendue à Hitler. La Tchécoslovaquie qui n'était pas suffisamment puissante pour résister à l'Allemagne. Enfin, la Pologne qui aussi était avec un général, comment ça, le Pidulski, je crois, qui aussi qui n'était pas capable de se protéger, donc... c'était plus difficile de s'attaquer à un empire comme l'Autriche-Hongrie que de s'attaquer à quatre
petits
peuples qu'aucun d'entre eux n'avait. Et en plus, si vous aviez, ce qu'ont fait les Allemands, quand les Allemands ont attaqué la Tchécoslovaquie, on en piquait une partie, même quasiment tout, les Polonais étaient enchantés, on piquait ce qui restait, quoi.
Oui.
Donc, oui. En plus, les Polonais gueulent quand les Allemands sont rentrés en 1940, quoi. Mais les Polonais eux-mêmes, ils avaient été se prendre une petite partie de la Tchécoslovaquie en douce. Donc, vous dites, on avait pas, avec la sagesse des siècles, on avait un truc qui avait émergé, qui était pas très, un peu bancal, mais qui était pas mal, qui était l'empire d'Autriche-Hongrie. Et puis, on l'a détruit parce que il était catholique.
Ouais.
Ça, c'est un crime impardonnable. Vous avez des, quand vous étudiez l'histoire un peu, vous avez des grands moments de solitude. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est en lisant l'histoire de France de Bainville que j'ai vu à quel point effectivement la diplomatie française avait une espèce d'obsession avec cette Autriche-Hongrie. Et pendant tout le livre, je me disais mais pourquoi ils en veulent autant à ce pays ?
Je sais pas très bien, mais
alors qu'il y a les Anglais juste à côté, je veux dire. Enfin, c'est évident.
L'Autriche-Hongrie, oui, mais c'était parce que... L'Église a été pendant très longtemps, a eu des relations très spéciales avec les empereurs d'Autriche-Hongrie pendant très longtemps, l'Église catholique.
Ouais.
Donc il y avait des papes, qui étaient des papes autrichiens, si j'ose dire. Et la France a toujours eu une relation gallicane vis-à-vis de l'Église, on était nous, sauf... Le dernier pape français, écoutez, ça doit remonter le moment où ils étaient à Avignon. Hein.
Peut-être. Ça, je ne saurais pas dire.
Bien, mais je ne crois pas. Je crois pas qu'il y en ait eu entre Avignon, mais qui était dans les 1300. Pourtant, on était la plus grosse nation d'Europe. On aurait dû avoir quelques papes dans le temps-là. Mais je crois que de 1300 à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un pape français.
Oui. C'est clair que oui, statistiquement, il y avait des chances quand même. 17e, 18e siècle, on était la plus grosse nation d'Europe en population.
C'est-à-dire que la population française était égale à la population de tous les pays européens, y compris la Russie. C'est-à-dire que la France, quand la France se battait contre l'Europe, c'était un contre un.
Oui. Putain, la vache. Ouais, c'est plus tout à fait le même.
Quand vous lisez l'histoire de France et tout, vous vous rendez compte qu'il y a eu des erreurs, mais monstrueuses qui ont été faites et dont on ne vous parle jamais. C'était pour laisser dans l'esprit du public l'idée que les gens qui nous gouvernent sont compétents. Mais non.
Ouais.
Mais non, on a été gouverné par des guignols, des crampins, des bons à rien, des assassins, des fous, des... Et donc, pour transformer la lumière du monde qui était la France au XVIIe siècle, au XVIIIe, en sous-province de l'Allemagne, il faut le faire quand même en deux
Ouais.
siècles.
Finalement, notre gouvernement actuel
Il ne fait qu'en conduire et continuer
est issu d'une longue tradition.
D'une longue tradition de nullité, d'incompétence et d'imbécilité. Mais qui a quand même une espèce de... Depuis la Révolution française, une espèce de lien qui tire comme ça toujours. C'est qu'il faut surtout être contre l'Église catholique.
Ouais.
C'est ça le but essentiel.
Ouais.
Toute notre diplomatie s'explique comme ça.
Oui. Oui, bah c'est de plus en plus, en fait, c'est négation de l'identité du propre pays, quoi.
C'est l'identité du pays et cette idée que le...
Culturelle, religieuse.
Que chaque homme est supérieur et antérieur, la liberté de chaque homme est supérieure et antérieure au pouvoir de l'État.
Ouais.
Ça, c'est un truc que le socialisme n'a pas accepté.
Ouais.
Donc, moi, quand j'en vois tous ces gens qui passent des jugements de valeur sur la Russie, je me dis, ils ont bien de la chance de savoir où est le bien, où est le mal. Moi, pour moi, j'aurais tendance à penser comme Trump. S'il y a quelque chose qui se passe où il y a 1 million de jeunes hommes qui font tuer, je suis plutôt contre.
Ouais.
J'aimerais bien que ça s'arrête. Je sais pas très bien pourquoi, mais juste le fait qu'il y ait 1 million de mecs qui soient tués, ça me paraît pas une bonne idée, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu
Bien
vois?
sûr. Mais même Zelensky a un certain degré en a conscience, mais forcément ça va limiter, enfin ça limite les forces ukrainiennes. C'est que dans les conscrits, il n'y a pas les jeunes hommes de moins de 25 ans ou qui n'ont pas d'enfants. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller à la guerre si vous n'avez pas d'enfants ou si vous avez moins de 25 ans. Donc, voilà, ça préserve un petit peu une partie de la jeunesse, mais il y a une grande partie qui est déjà à l'étranger. Et puis, il y en a une grande partie bah, qui est déjà morte sur le champ de bataille ou blessée. Enfin, voilà, donc... C'est la pyramide des âges en Ukraine, on la souhaite à personne.
Ah ben non, mais non, mais non. Mais d'ailleurs, quand vous regardez la pyramide des âges de 14-18, qui est très extraordinaire, c'est que vous avez cet énorme creux
ouais.
au moment de la guerre où on voyait tous les hommes qui sont tués, là, etc.
Ouais.
Et 30 ans après, vous voyez le creux dans les naissances,
ouais.
parce que les femmes n'ont
ah
pas
oui.
trouvé de mari,
bah
et
oui.
vous voyez vous avez un écho du creux.
Ouais.
Donc, ils vont voir la même chose.
Ça, ça se répercute
longtemps,
ça, bien sûr.
Quand vous tuez quelqu'un à 20 ans, il est probable qu'il n'aura pas d'enfant.
Ouais. C'est sûr.
Donc, c'est tout. Ce qui m'énerve, c'est l'absence de culture et l'absence. Vous savez, c'est ce que disait Bastiat, qui était quand même un très grand économiste. Il avait une phrase très forte. Il disait, quand vous prenez une mesure, il y a ce qui se voit et qui ne se voit pas. Quand vous avez attaqué Poutine, etc., il y a ce qui se voit, bon, cette guerre, Poutine est responsable, bon, très bien, j'accepte. Mais il y a ce qui se voit pas, c'est qui a intérêt à cette guerre, qui l'a lancée, quels sont les gagnants, quels sont les perdants, où est en train d'apparaître
ouais.
le pognon.
Et où est la véritable moralité
où sont les vrais responsables. Et ce que disait Montesquieu, qui était quand même pas n'importe qui, il disait, ceux qui commencent une guerre sont responsables, mais ceux qui le sont encore plus, c'est ceux qui ont rendu la guerre inévitable. Mmh. Et je dis, certes, Poutine est responsable de la guerre, mais il y a des gens qui ont rendu la guerre inévitable, et c'est ceux-là les vrais criminels.
Mmh.
Et c'est ceux-là sur lesquels des enquêtes devraient avoir lieu.
Ouais. Bon, ce sera peut-être le cas avec cette administration.
Avec cette administration, on va peut-être savoir la vérité.
Ouais. Parce que la Pam Bondi, elle a l'air...
J'aimerais pas avoir un procès où je serais en procès contre elle.
Moi non plus.
Oui, et puis avoir Patel comme chef du FBI et avoir le troisième là, c'est... Il y a des quelques gars qui doivent être en train de prendre des billets d'avion pour, je sais pas où, l'Argentine.
Ouais. Et il y a des cabinets d'avocats à New York et à Washington qui eux, vont se faire un paquet de blé.
Un paquet de blé, ça va être ça, non, ça.
Et ça va être difficile pour eux quand même. Hein, mais ouais,
parce qu'il y a peut-être un certain des membres qui vont se retrouver... Faut pas oublier qu'au moment de la première et de la deuxième élection de Trump, qu'il avait raté il y a 4 ans, la quasi-totalité des grands avocats cabinets d'avocats américains avaient refusé de le défendre, de l'aider. C'est-à-dire qu'ils étaient bien tombés
ouais.
du bon côté. Mais
ouais.
là, ils vont peut-être se dire, merde, on est tombé du mauvais côté.
Ouais, c'est possible. Enfin voilà, je ben crois voilà. que ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas parlé de l'Ukraine et je crois
alors
que
j'en
c'était
parle avec
vraiment
toutes les
là.
précautions du monde, mais ça fait à peu près 15 ans que je suis la situation parce que je doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je pourrais vous raconter l'histoire sur la façon dont l'Église orthodoxe russe a été plus ou moins essayé une tentative de la détruire par l'intermédiaire de Kiev avec le patron de la CIA, etc. C'est documenté, tout ça. C'est donc ça fait très longtemps que les Américains cherchent à détruire la Russie.
Oui, c'est
Dans
ce que.
plusieurs, il y a même une carte qui avait été publiée
Oui, tout
des
à fait,
différents pays qu'on aurait pu faire
oui.
en Russie.
Oui. Tout à fait, différentes républiques. Oui, c'est une sorte de. Oui, de
Oui,
finlandisation
non, on aurait mis des tas de
de.
petits, des tas de petits États qu'on aurait pu dominer tranquillement et piller avec bonheur.
Enfin voilà, visiblement, je crois pas que ce soit la trajectoire dans laquelle on va. Je ne sais pas non plus ce qu'il en sera pour l'Ukraine, mais enfin tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce
Mais qu'on cesse
conflit
de tuer,
se
non?
termine. Voilà,
Qu'on cesse de tuer ces jeunes gens.
exactement.
Moi, je connais un prêtre polonais qui m'arrive de. Qui est à la frontière, qui a beaucoup de problèmes d'argent de pauvre, donc il m'arrive de l'aider comme ça de temps en temps quand il me demande. Et il me dit que le problème des réfugiés ukrainiens, c'est monstrueux. Parce qu'ils arrivent, ils sont blessés, ils ont une jambe en moins, ils sont. Donc. Ces connards qui font la guerre comme ça, s'ils ne se rendent pas compte.
Oui, je pense pas qu'on rende un grand service à ce peuple. Enfin voilà,
Merci beaucoup.
donc voilà pour ce dossier sur l'Ukraine. Je vous remercie bien sûr pour votre attention comme
Et puis, si
d'habitude.
vous avez des idées, si vous n'êtes pas d'accord, etc., vous nous envoyez les informations qui nous permettraient de changer d'avis. Parce qu'encore une
Oui,
fois,
tout à
je
fait.
vous dis ce que j'ai. Ça fait longtemps que je creuse la conclusion à laquelle je suis arrivé, mais ça ne veut pas dire que je peux pas changer d'avis, quoi.
Tout à fait. Effectivement, c'est une bonne réflexion parce que parfois, notamment sur ce genre de sujet ou quand on parle d'Israël, ce genre de choses, il y a beaucoup de commentaires, comment dire, un peu
Qui sont pas
musclés.
d'accord? Mais c'est votre droit.
Faites-le avec politesse et lorsque vous touchez la touche entrée pour mettre votre commentaire, posez-vous la question, est-ce que avec ce commentaire, je peux les faire changer d'avis ou
Et
du moins les faire réfléchir?
contribuer à une discussion meilleure.
Voilà, absolument. Parce que moi, je respecte les opinions, que ce soit les pro-russes, les pro-ukrainiens, etc. Ce que je ne respecte pas, c'est l'invective tout de suite, le débat ultra passionné sur cette question, où dès que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un ennemi. Je refuse catégoriquement. Donc voilà, je suis certain qu'il y aura tous les avis dans la communauté et dans les commentaires.
Et nous, on est pro-vie.
Et on est, voilà, absolument,
On
tout
est
à fait.
pro-vie. On n'est pas pro-ukrainien, pro-russe, on est pro-vie. Arrêtez de tuer tous ces gamins.
Voilà, exactement. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt pour de
Et
nouvelles
merci encore.
aventures sur l'Institut de Liberté, mais aussi sur l'Université de l'Épargne, n'oubliez pas. Voilà.
Comme moi, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, mais une inquiétude vous habite. Comment s'en sortir dans ce monde compliqué où toutes les garanties que nos aînés ont pu avoir risquent de disparaître? Par exemple, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne cotise pas pour sa retraite, mais pour celle des retraités actuels. On cotise donc pour un droit, mais votre argent n'est pas stocké quelque part dans un coffre-fort qui vous sera restitué au fil du temps quand vous serez à la retraite. Les retraités actuels ont un niveau de vie plutôt confortable en moyenne et sont donc en termes relatifs parmi les plus riches dans les pays de l'OCDE. Ils ont dû cotiser relativement peu par rapport à leur salaire car dans les années 70, il y avait 4 actifs pour un retraité. Désormais, c'est 1,7 actifs pour un retraité. Et lorsque je serai à la retraite, en 2060 ou en 2070, il y aura à peine plus d'un actif pour un retraité. Leur niveau de vie va devoir forcément baisser et pour contrecarrer cela, il va falloir compter sur soi-même. Ici, à l'Université de l'Épargne, Charles Gave, Emmanuel et moi-même nous forçons d'enseigner les bases de la finance et même un peu plus pour que vous appreniez vous-même à gérer votre épargne. Vous avez donc accès à des dizaines de vidéos, des cours théoriques, des mises à jour de portefeuille, des évaluations de courtier, des vidéos sur la fiscalité et vous intégrez une communauté de plus de 7000 personnes, des investisseurs débutants comme expérimentés, avec lesquels vous pouvez interagir. On ne promet pas la lune ou des rendements incroyables et aucun rendement d'ailleurs n'est absolument garantie au-delà du taux du livret A, mais on a comme objectif de quand même largement battre l'inflation. Si cela vous intéresse, rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne.